Pour notre méditation d'aujourd'hui, nous allons lire le texte dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 16 au verset 24. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à 24. Au nom de Jésus. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés. Mais, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu qui donne la paix fasse que vous soyez complètement à lui, qu'il vous garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, sans tache pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. Amen. Il existe quelques mouvements dits charismatiques qui organisent des séances particulières où ils préparent leurs fidèles à recevoir le Saint-Esprit. Et d'après eux, quand le Saint-Esprit viendra descendre sur eux, le pasteur ou le prédicateur, ou je dirais plutôt le gourou, vont leur dire que il viendra sur vous et vous allez être dans la joie immense. Et tout à coup, ils se mettent à rigoler comme des fous. J'ai vu des séances pareilles sur Internet, et je vous assure, ça fait peur. On dirait des fous qui se sont évadés d'un asile de fous. Je me suis dit, c'est comme ça l'œuvre du Saint-Esprit. Ils prétendent que c'est le Saint-Esprit qui les fait rigoler. Mais je crains fort que ce soit l'œuvre de l'Esprit-Saint qui fait cela. Bon, il est vrai que dans l'évangile de Luc, il est dit que Jésus, une fois, fut rempli de joie par l'Esprit Saint. Mais si nous lisons ce passage, justement, rempli de joie ne veut pas dire rigoler ou ricaner comme un fou. Si nous lisons le texte qui parle de cela, Jésus fut rempli de joie et s'exclama, et je cite le passage, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. » Luc, chapitre 10, verset 21. Donc, vous voyez là la joie qui animait Jésus est une reconnaissance envers le Père à cause de la grâce qu'il a accordée à ceux qu'on considérait d'insignifiants, de petits. Dieu accorde de l'importance à des personnes que le monde ou la société pense être en seconde zone. Et c'est ça qui a rempli la joie. Donc vous voyez, c'est une joie intérieure, profonde, et non superficielle. Ceci étant, on revient à notre texte, la joie. Pourquoi je parle de cela? Parce que il parle de la joie ici annoncée Paul. Cette joie que Paul annonce dans notre texte est une joie procurée par l'Esprit Saint et non une joie à cause de ce que nous vivons ou nous traversons. C'est la grosse différence avec la joie que nous avons tous les jours. Parfois, on regarde un peu le visage de nos amis, les membres de la famille, tu n'as pas trop la joie aujourd'hui. Parce que notre joie dépend de ce qui se passe. Mais cette joie qui est annoncée par Paul, c'est une joie qui vient de l'Esprit-Saint. Et d'ailleurs, le texte précise bien ce type de joie au verset 16, que je vais relire. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours, il ne dit pas soyez joyeux, soyez toujours joyeux, c'est-à-dire une joie permanente, une joie continuelle, mais pas une joie circonstancielle. Mais la joie que nous vivons de tous les jours, c'est une joie, joie, voilà, joyeux Noël, meilleurs vœux, bon anniversaire, on a réussi aux examens, on a reçu de l'argent. C'est ça la joie circonstancielle. Mais ici, il est question de la joie permanente. Donc ce genre de joie n'existe pas sur cette terre. Ça n'existe pas. On pourrait même dire que c'est de l'utopie. Car on sait très bien que dans le quotidien, on entend parler les uns et les autres, par exemple, aujourd'hui, ce n'est pas la joie. Or, le texte dit « Soyez toujours dans la joie ». Et donc, si c'est une joie permanente, elle doit être alimentée en permanence, n'est-ce pas? Et là, au verset 19 et 20, Paul parle de ne pas éteindre. Pour que cette joie soit alimentée, elle est branchée sur l'Esprit-Saint. Prenez un peu l'exemple de vos smartphones, de vos appareils électroniques. Si elle n'est pas branchée en permanence, vous ne pouvez pas jouir de tout ce que vos appareils vous donnent. Donc, on a besoin d'être branché en permanence. Et ici, cette joie, elle est connectée avec l'Esprit-Saint en permanence. Cela veut dire quoi? Cela signifie que l'Esprit œuvre toujours à travers la parole. Et ici, je parle de la parole petit p, c'est-à-dire le message du prophète. Et il le dit au verset 20. Ne méprisez pas les messages inspirés. C'est-à-dire que, tels que nous écoutons aujourd'hui, ou que vous écoutez chez vous à travers plusieurs réseaux. Cela implique quoi? Cela implique que plus nous nourrissons de la parole, plus cette joie, en grec le kairos de Dieu, la joie de Dieu, prend place en nous. Plus nous nourrissons de la parole, plus nous sommes en connexion avec la parole, plus cette joie, elle est alimentée. Donc vous savez maintenant, si votre joie n'est pas en permanence, c'est parce que vous êtes déconnecté de temps en temps de la parole. C'est tout. Il n'y a pas de recette miracle, chers amis. Comme quoi tu te lèves le matin ou tu espères comme au loto que peut-être ta journée sera bonne. Il ne faut pas jouer à la roulette russe dans cette vie. La joie que procure le Saint-Esprit n'est pas cette joie-là. Qu'est-ce qui m'attendra demain? Est-ce que ce serait mieux ou pas? Maintenant, on se souhaite les meilleurs vœux, mais avec un grand point d'interrogation, qu'est-ce que 2021 va nous donner? Voilà, parce que c'est une joie superficielle, une joie fragile. Je me rappelle bien, lors du Nouvel An 2020, tout le monde dit « Ah, c'est une année 20 sur 20 ». Et j'ai entendu dans les nouvelles hier, avant-hier, que le journal Times aux États-Unis a fait un sondage « C'est l'année la plus détestée depuis l'histoire de l'humanité ». C'est incroyable. Donc, vous voyez sur quelle joie nous bâtissons notre vie. Il suffit de peu et tout s'écroule. Et on déprime. Mais la joie venant de la parole, elle est là. Et elle la dépose et la grave au fond de notre cœur. Et je dis bien gravé. J'aime bien ce mot gravé. Comment formuler cette parole dans le texte? Les messagers des prophètes, voilà ce qu'il dit. Les messages des prophètes, pardon. Et revenons un peu dans le texte dans l'Ancien Testament, Les messages des prophètes n'est autre que la loi. Et la loi, il faut enlever dans notre tête la loi dans le code pénal que nous connaissons aujourd'hui, dans des livres qui peuvent se déchirer. Mais il faut se mettre dans le contexte. Le jour où Dieu a donné la loi à Moïse, c'est autre chose. Et cela nous paraîtrait même bizarre, surtout de la part de Paul, qui martèle sans cesse que la loi tue. Comme il dit dans 2 Corinthiens 3, 6, la lettre tue, mais l'esprit qui fait vivre. Mais nous savons tous que dans l'Ancienne Alliance, la loi, au tout début, elle a été gravée dans la pierre. C'est bien écrit dans le livre d'Exode. Dieu a gravé la loi sur des pierres. Et tandis que dans la Nouvelle Alliance, il est dit dans Jérémie 31, 31, la loi est gravée dans le cœur. C'est très important de garder ce verbe gravé. C'est-à-dire que ça prend du temps. Ça ne s'enlève jamais quand ça a été gravé. C'est pour toujours. Si tu écris juste avec de l'encre, ça pourrait s'enlever avec le temps. Mais ici, c'est gravé. Donc, c'est ce qui fait l'énorme différence. Et là où je veux en venir, la loi ou la parole de Dieu est faite pour être gravée, pour qu'elle soit durable et permanente. Je te pose la question, est-ce que la parole de Dieu est gravée en toi ou juste écrite dans ton cœur? C'est différent. Par conséquent, si nous souhaitons que la joie de Dieu soit permanente en nous, laissons le Saint-Esprit faire son œuvre pour graver la parole de Dieu. Et je vous assure, graver, ça fait mal. C'est pire même que ceux qui font les tatouages. Il faut souffrir un peu pendant que le gars utilise son appareil. Quand l'Esprit œuvre en nous, ça fait mal parce que ça prend du temps pour graver. Mais le résultat sera différent. Oui, nous sommes dans la période de l'Avent, en route vers Noël, bien sûr. Et quand on parle de Noël, c'est célébrer l'incarnation. Et quoi, c'est quoi l'incarnation? C'est le Verbe qui s'est fait chair. C'est-à-dire que le Verbe est gravé dans la chair, qui prend forme et qui ne reste pas seulement une voix. Mais cette parole devient chair, palpable. Et c'est le projet de Dieu dans nos vies. La parole peut typer, telle que je prononce ce matin, que nous entendons lors des méditations bibliques. Une fois entrée dans nos cœurs, c'est là que l'œuvre du Saint-Esprit, un miracle se fait, se transforme en parole grand P. Et il existe un phénomène que moi je qualifierais de miraculeux qui se produit que nous ne voyons pas à l'œil nu. Mais le Saint-Esprit, à travers cette parole petit p que nous avons entendue lors d'une prédication ou d'une méditation, le Saint-Esprit la transforme en grande parole, en grande parole. La parole qui prend chair. Cette parole qui se fait chair en nous ne se fait pas en une seule journée, chers amis. Elle devait prendre de plus en plus de place pour impacter nos comportements et nos façons de faire les choses dans la vie. Paul dit clairement que la parole du Christ, avec toute sa richesse, habite en vous. Instruisez-vous, avertissez-vous les uns et les autres avec une pleine sagesse. Tout est là dans ce verbe, dans ce verset. Pour que la parole du Christ soit en nous avec toute sa richesse, il faut que cette parole habite. Ce n'est pas juste une parole qui passe. Ce n'est pas une parole qui nous rend visite pendant quelques heures. Une parole qui habite chez nous. Et comment ça va se faire? Il donne tout ici, Paul. Instruisez-vous. Les étudiants savent bien ce que ça veut dire, s'instruire. Les élèves, ils prennent du temps du matin jusqu'à l'après-midi en écoutant leurs profs. Ça prend du temps. L'instruction, ça ne se fait pas qu'en un seul jour, en une seule année. c'est toute la vie. Voilà le message. Donc si vous voulez que la parole habite en vous, est-ce que vous êtes prêt à être instruit? Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver pour dire « j'aimerais avoir une foi inébranlable, mais sans s'instruire à la parole ». Ça n'existe pas. C'est une foi émotionnelle. C'est une foi comme les nuages. C'est une foi circonstancielle, mais ce n'est pas une foi permanente. Alors, si nous faisons le lien avec ce qui est écrit dans notre texte principal au verset 21 et 22, il est dit « examinez tout, retenez ce qui est bien et abstenez-vous du mal sous toutes ses formes ». Je reprends. « Examinez tout, retenez ce qui est bien », c'est-à-dire après avoir été instruit, vous aurez la capacité d'examiner les choses. Et vous pouvez retenir vous-même, sans demander l'avis de votre pasteur, sans demander l'avis de vos anciens de l'Église, puisque l'Esprit vous a appris cela et vous êtes capable d'examiner ces choses pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais. Voilà un chrétien adulte dans la foi. Nous n'avons pas notre propre capacité d'examiner, de retenir ce qui est bien, de s'abstenir à faire du mal si nous ne sommes pas, allez, je dirais, imbibés de la parole de Dieu. Je dis bien imbibés. C'est vraiment que la parole habite en nous. Au fil du temps, la parole nous façonne à l'image du potier. Je compare ça au potier qui il prend l'argile qui est sale, qui n'est pas du tout valeureux, et il s'assoit, et là, il fait tourner sa machine, et il prend tout son temps, tout son temps. Et que cette argile-là, l'argile si sale, boueuse, devient même une œuvre d'art. L'argile que tout le monde a piétinée par terre, entre les mains de l'Esprit Saint, avec le temps nécessaire. L'Esprit Saint, il est patient. Il est patient. Mais il nous forge comme le potier. Et à la fin, on devient une pièce unique et rare, qui a de la valeur. Et Dieu lui-même lui dit, tu as de la valeur à mes yeux. Sois cette argile qui devient la pièce rare. Mais cela n'est pas possible si tu ne te laisses pas faire dans les mains de l'Esprit Saint. Et le travail, lors de la création de l'homme, au tout début, vous voyez, on le revoit encore une nouvelle fois, dans la nouvelle création, au commencement, Dieu le Père, c'est toujours le potier, hein, si vous regardez la création, Dieu le Père nous a façonné de l'argile afin de ressembler à son image. C'est ce qui est écrit dans le livre de la Genèse. Genèse. Et regardez combien est encore plus importante dans la nouvelle création en Jésus-Christ. Et en Jésus, Dieu nous façonne aussi jusqu'à ce que nous ressemblons à lui. Mais cette fois-ci, à Jésus qui est l'image du Père. Mais pas à l'image du Père. Tel est le but de notre Père, que tu ressembles à son Fils aimé, avant qu'il t'élève à sa droite. Voilà l'objectif de Dieu. Soyons comme notre grand frère Jésus-Christ. Je ne dirais pas un modèle, mais qui est l'image du Père. Mais pour en arriver à ce niveau, laisse-toi forger par le Saint-Esprit. Accepte de t'instruire de la parole. Sois toujours connecté à la parole. Ne ménage pas ton esprit à lire ta Bible. Apprends les Saintes Écritures. Mais au fur et à mesure que tu t'y mets, tu verras que l'Esprit œuvre en toi de façon incroyable et va te transformer en une pièce rare et valeureuse. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous tous. Amen.